En écoutant le dialogue, le témoignage de Julien et Denis, dans ma tête, une question est venue. Donc, quand une question sera posée, elle attend une... Super. Est-ce que nous sommes des pécheurs parce que nous péchons? C'est pas fini la question. Est-ce que nous péchons parce que nous sommes des pécheurs? Oh, c'était pas si simple, hein? Je répète. Est-ce que nous sommes des pécheurs parce que nous péchons? Est-ce que nous péchons parce que nous sommes pécheurs? Donc, la réponse, vous savez, mon adresse mail, vous pouvez écrire pendant toute la semaine et réfléchir, et puis vous pouvez m'envoyer, hein? OK? Non, la question, moi plutôt, c'est ça, hein? Nous péchons parce que nous sommes pécheurs, hein? C'est question de l'être. On a parlé d'être, etc. C'est question de l'être, hein? Et puis la conséquence arrive par les actes, par les pensées. Voilà. Nous ne sommes pas saints. S-A-I-N-T-S. Voilà. Donc, j'ai pensé à cette question, mais en même temps, vous allez voir ce que j'ai préparé. Et aussi, il va un peu partager, répondre à ce que nous avons entendu. Merci beaucoup. Dimanche dernier, j'ai partagé donc, voilà, une confession de foi en disant « première parole, première confession de foi de Pierre ». Et après, je vous ai promis, nous allons méditer dimanche prochain, donc aujourd'hui, la deuxième confession de Pierre. Première confession de Pierre, c'était quoi? Luc 5, nous avons péché. Nous avons, voilà, péché toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. J'ai dit, voilà, dans cette courte parole, confession de foi, nous voyons, il y a un cheminement. Cheminement quoi? C'était le point de départ, c'était quoi? Nous avons travaillé toute la nuit, waouh! Mais en vain. C'était le point de départ, hein? Et le point d'arrivée, je jetterai le filet, waouh! Comment c'est possible? Il y avait une étape entre les deux, mais sur ta parole. J'ai dit, en effet, la foi, c'est la force de dire, mais la foi est toujours un dépassement. C'était la conclusion de mon partage. Aujourd'hui, nous continuons cet événement. Comme je lis tout le passage, vous pouvez donc connaître cette histoire, donc ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Aujourd'hui, j'aimerais bien lire à partir de verset 6. Verset 6. Donc, maintenant, Pierre, il a dit, « Je jetterai le filet !» Et après, le verset 6 arrive. « L'ayant fait, Je m'arrête là. L'ayant fait. J'aimerais bien vous poser une question. Est-ce que cette expression, est-ce que cette parole, l'ayant fait, c'est-à-dire quoi? Ayant jeté le filet. Est-ce que cette parole provoque en vous un suspense? Non, hein? Ça, c'est notre malheur. Notre problème, c'est quoi? Parce que nous savons la suite de l'histoire. Donc, comme les gens disent, l'histoire est spoliée. Ne raconte pas la fin. Elle est déjà racontée. Oh mince. Du coup, bref, l'ayant fait, ça ne provoque pas en nous de bonnes suspense. Est-il possible? Comme si nous lisions pour la première fois. comme si nous en étions ignorants, comme si nous étions Pierre. Ok. Une question viendrait sur moi. Laquelle? Aujourd'hui, je remarque que tu poses beaucoup de questions. Oh, c'est pas encore fini. J'étais où? Ah oui. Voilà, une question s'imposerait sur moi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que la parole de Jésus est vraie? Pour Pierre, comme il ne sait pas, il n'a pas lu l'évangile de Luc, il ne sait pas. Bon, donc pour lui, c'est un défi énorme. C'est un risque, c'est une aventure énorme. Si ça marche, alléluia. Mais ouh, si ça ne marche pas, un échec. Est-ce Pierre serait bien ridiculisé par la foule. Oh, pauvre Pierre, quelle idée d'avoir écouté cet homme charpentier. En dépit du risque d'échouer, Pierre, je vous laisse 10 secondes, on tous ensemble, hein? Ok? 1, 2, 3. Ça fonctionne. Oh, non. Okay. C'est vrai, moi aussi, oh là, je tousse depuis, je ne sais pas, des semaines. On se confronte, ne vous gênez pas, tout c'est bien. En effet, dans la foi, dans l'acte de foi, il y a toujours un malgré. Il y a toujours un en dépit d'eux. Quand nous avons médité l'histoire d'Abraham, j'ai dit plusieurs fois, si nous croyons seulement ce qui est croyable, que faisons-nous d'extraordinaire? N'en font-ils pas autant les païens? Ils croient aussi pour des choses dont la probabilité est très haute. Hein? L'ayant fait, ça me parle. Pierre, en effet, il l'a jeté malgré en dépit d'eux. Nous continuons. Je vous rassure, je ne m'arrêterai pas à chaque mot. Hein. L'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Ça marche. Quantité de poissons et leur filet se rompait. Ça marche. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand ils virent cela, Simon Pierre, il tomba aux genoux de Jésus et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. C'est pas pécheur avec chapeau, hein? Pécheur avec accent aigu. Voilà la question de culpabilité, hein? Le sentiment du péché. Hein? Car la frayeur, la crainte l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Ça marchait. C'est la pêche miraculeuse. Et ici, nous entendons la deuxième confession de Pierre. Seigneur, Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. La foi qui a osé le risque, qui a dépassé le doute, a produit une pêche miraculeuse. Il y a dans cette histoire une belle collaboration entre la puissance de Jésus et le courage de Pierre. La pêche était tellement abondante qu'une batte seule n'était pas suffisante, était trop petite pour contenir tous les poissons. Pierre a appelé ses amis en aide. Les deux barques étaient remplies de poissons au point qu'elles enfonçaient dans l'eau. Waouh ! Quelle abondance ! Quelle récolte ! Quelle surabondance ! Et encore, quelle récompense pour ces trois pêcheurs qui ont travaillé toute la nuit en vain. Or, pour moi, il y a encore une autre récompense qui est plus belle que la surabondance de poissons. Laquelle ? Laquelle ? C'est l'expérience. Oh, quelle expérience ! L'expérience de foi avec la parole. Mes amis, malgré ma fatigue à mort, en dépit de la peur d'échouer, j'ai lancé mon filet. Pourquoi ? J'ai cru la parole de Jésus. Voici ce qui m'arrive. Un miracle. Et après, j'entends la parole de conclusion de Pierre qui dit « Waouh, sa parole est vraie. Sa parole est puissante. » Je pense que c'est cette expérience avec la parole est la plus belle récompense pour Pierre. Ce n'est pas la quantité des poissons qui était extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, bien sûr, pas plus. Mais c'est la qualité de son expérience avec la parole. Ne sera pas d'ailleurs Pierre qui proclamera plus tard une autre confession. C'est quoi ? À qui irions-nous ? Tu as ? On peut imaginer l'agitation, l'enthousiasme de ces pêcheurs galiléens. On peut imaginer entendre leurs cris de joie. Mais ce n'est pas la joie qui préoccupe le plus Pierre. Pierre était sans doute bouleversé par le miracle, mais ce n'était plus le miracle qui saisissait le plus Pierre. Une question empoigne Pierre. Laquelle ? Waouh ! Qui est cet homme ? Qui est cet homme Jésus ? Pour que les poissons même lui obéissent. Ce n'est plus l'événement, mais c'est la personne de Jésus qui saisit davantage Pierre. Le miracle, l'abondance des poissons devient secondaire. C'est Jésus qui prend toute la place chez Pierre. Waouh ! Qui est cet homme, Jésus ? Et alors, une évidence s'impose sur Pierre, cet homme, qui m'a ordonné de jeter mon filet est plus qu'un charpentier. Il est plus qu'un enseignant. Il est plus qu'un prédicateur. Il est même plus qu'un homme. Il est incarné. Incarné de l'être d'un être divin. La pêche surabondante, miraculeuse, lui apparaît à Pierre comme un signe de la présence divine. Ah, ne sera pas d'ailleurs Pierre qui proclamera encore une autre confession. C'est quoi ? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En effet, c'est ça, hein. Quand la puissance divine sort d'un aspect abstrait, oui, c'est vrai, on parle Dieu est tout-puissant, mais souvent, c'est abstrait. Hein. Mais quand la puissance de Dieu sort de cette abstraction et elle devient réelle et concrète, waouh, ça provoque la crainte. Ici, Pierre, il transforme la crainte en repentance, en disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Cette parole est profonde et surprenante. Surprenante. Car nous savons très bien que Pierre n'a pas commis une faute, n'a pas commis un péché dans cette histoire. Au contraire, il a écouté, obéi à la parole de Jésus. D'où vient alors ce sentiment du péché? J'avoue, je ne peux pas vous donner les réponses. Hein. Mais j'ai lu une explication qui m'a parlé, j'aimerais bien partager avec vous. Cette personne a comparé ce sentiment de péché avec notre pare-brise de la voiture. Ça vous est déjà arrivé à mon avis. Hein? Par exemple, pendant la nuit, quand vous roulez longtemps, le lendemain matin, quand vous revenez à votre voiture, vous voyez quoi? Il y a des saletés sur le pare-brise. Non, il a dit ceci. Un pare-brise poussiéreux, sale, maculé. Tant que nous roulons dans une forêt épaisse, partant de brouillard, nous ne voyons pas la saleté qui couvre notre pare-brise. Mais dès que nous sortons de la forêt et du brouillard pour entrer dans une zone ensoleillée, waouh, la lumière frappe notre pare-brise et nous révèle toutes les taches et les impuretés qui nous empêchaient jusqu'à maintenant voir la vérité de notre être. C'est l'expérience avec la grâce, hein. Quelque part, c'est la grâce qui provoque en nous que nous sommes des pécheurs. La lumière de Jésus fait apparaître l'obscurité chez Pierre. La grandeur divine de Jésus fait apparaître la petitesse humaine chez Pierre. La sainteté de Jésus, son impureté, la puissance de Jésus, sa fragilité humaine chez Pierre. La présence divine de Jésus est devenue pour Pierre insupportable. Car elle fait apparaître tout simplement sa condition humaine, la vérité de son être. Oui, je suis un pécheur. Seigneur, Éloigne-toi de moi, parce que tu es un homme pécheur. Quelle belle et grande confession de foi. Dans sa première confession de Pierre, j'ai dit qu'il y avait un cheminement. De la fatigue au renouvellement de la force, de l'épuisement au rebondissement, de la désespérance à l'espérance, du défaitisme au relèvement. Ici, dans la deuxième confession de foi, je vois une irruption volcanique, un saisissement. Tout l'être de Pierre a été saisi par la grandeur de Jésus. Oui, un être humain fragile a été saisi par la grandeur de Dieu. Un cantique, je ne sais pas, vous savez ce cantique-là, l'immensité de ta grandeur me montre que je suis rien. J'ai noté quelques versets de Psaume 103. L'Éternel sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. La vie de l'Éternel, la vie de l'être humain, fait penser l'herbe. Comme l'herbe des champs. Elle commence à fleurir, mais dès que le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. La vérité de l'être humain. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le verset qui vient après. Mais la volonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui reconnaissent sa grandeur. Voilà, la parole de Jésus console, encourage Pierre. Sois sans crainte, désormais tu seras pêcheur d'hommes. La belle vocation est née ce jour-là pour un homme pêcheur. Alors, Pierre et ses compagnons, n'hésitez pas à le suivre. Verset 11. Ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Si j'étais un peintre, loin de là en réalité, et que l'on me demandait de dessiner cet événement, moi, je choisirai ce dernier verset. Je dessinerai les barques abandonnées, mais remplies de poissons. Je pense, vous allez me demander, hein, mais pourquoi Pyongwan, tu dessines ça? Je dirais, tu sais, un jour, il y avait quelques pêcheurs qui peinaient, pour gagner, pour trouver de quoi manger, de quoi vivre. Un jour, ils ont rencontré Jésus et ils ont laissé tout. Alors qu'ils ont fait la plus belle pêche de leur vie. Mais pourquoi ils ont tout laissé? La réponse, ce sera dimanche prochain. Ils auraient dit, car nous avons trouvé la raison de vivre. Beaucoup de gens cherchent de quoi vivre. Nous tous, nous avons raison. Mais en oubliant la raison de vivre. ça c'est qui est malheur, tristesse de beaucoup de personnes et de nos contemporains. Mais celui qui ont rencontré Jésus, ils ont trouvé la raison de vivre et de là, la force vient pour chercher, trouver de quoi manger et de quoi vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, Pierre, ce jour-là, il n'a pas pu contrôler, car le saisissement de ta part était tellement grand. Oh, finalement, Seigneur, par notre partage sur les deux paroles de Pierre, deux confessions de Pierre, nous comprenons davantage ce que signifie la vraie foi. Oui, la foi, c'est un dépassement, toujours, pour aller encore plus loin. Et la foi aussi, des fois, c'est de savoir nous laisser saisir par toi. Ça demande beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de courage. Ô Seigneur, accorde-nous cette humilité et ce courage nécessaire. Ce n'est pas pour trouver la foi, car nous avons déjà trouvé la foi, car tu as déjà donné la foi, mais pour grandir, pour augmenter notre foi, et ainsi pour devenir davantage, nous tous, comme Pierre, des pécheurs d'hommes. Seigneur, merci pour ton saisissement, petit et grand, dans nos vies quotidiennes et dans les moments difficiles, dans les épreuves. Seigneur, oui, ta parole est vraie. Que nous puissions continuer, multiplier, de faire cette expérience avec toi et avec ta parole. Merci Père, nous voulons te dire Alléluia, nous te proclamons, nous te louons et nous te bénissons. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Ah, nous allons chanter ta bienveillance.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, oh. de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main peut nous donner. Sa bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Amen. Voici le moment des annonces. J'appelle donc Dominique, Alfred, voilà. Hier, donc à Landersen, nous avons vécu donc la rencontre nationale. Donc première partie, donc c'était le partage et puis la discussion sur le résultat du questionnaire. Bon, pas ce matin, peut-être un autre moment. Je veux donc partager davantage. En tout cas, vous avez tous reçu aussi les résultats du questionnaire par mail. Hein. Voilà. Donc, Dominique, tu peux venir.
Oui, les amis, cela fait quelques mois que je vous ai partagé notre à Denise et à moi. Désespoir, notre immense tristesse, notre désarroi concernant nos enfants qui se sont mariés ici en août 2017. Déjà, dès la fin octobre, une avancée spectaculaire s'est produite, à savoir que nous avons pu revoir notre belle-fille lors d'un de ses passages en Alsace avec Pierrick. Il n'y avait plus aucun échange depuis des mois, un an et demi, je ne sais plus exactement. Cela faisait quelques mois qu'un rapprochement important s'était opéré suite à une opération d'une hernie discale d'Hélène où Pierrick avait été à ses petits soins. Et à Noël, les enfants, qui étaient à nouveau présents tous les deux, nous ont annoncé qu'ils allaient se remettre ensemble. Je suis revenu hier soir de Lyon et la décision est devenue réalité depuis hier. Nous n'avons pas les mots pour témoigner de notre reconnaissance auprès du Père pour ce qu'il a fait. Nous continuons à les porter, ou plutôt à lui demander de les porter pour les hauts et les bas moments auxquels ils seront encore confrontés et pour qu'ils puissent rejoindre également une communauté. Reconnaissance également pour Noémie. Je crois qu'il n'est pas là. Qui se rapproche du Seigneur. Merci aussi de prier, entre autres, pour son dos. Elle a aussi une hernie. Nous restons par contre en grande interrogation et détresse face à la souffrance de mon beau-frère, du petit frère de Denise et autres membres de l'Église ou amis et à l'absence de contact avec nos petits-enfants Tyrone et Nadia. Maintenant, la parole du jour, un nouveau clin d'œil, nous rapporte un peu de réponse, juste en train de s'ouvrir. Croyez que Dieu vous guérit. Le doute et l'incrédulité empêchent les miracles. Je suis l'Éternel qui te guérit. Pourquoi les prières pour les malades ne sont-elles pas toutes exaucées? On n'en sait rien. Et Dieu ne nous le dit pas. On sait déjà que le doute et l'incrédulité empêchent les miracles. Lorsque Jésus revient dans sa ville natale, vers ceux qui le connaissent le mieux, la Bible raconte, il ne fit pas beaucoup de miracles là. À cause de leur incrédulité, Mais il y a des aspects de la guérison que nous ne comprenons jamais entièrement. Paul écrit « J'ai laissé Trophime malade à Millet. » Pourquoi Paul, qui avait ressuscité des morts, a-t-il laissé un ami malade au lieu de prier pour lui et de voir guérir? On ignore bien des choses sur Dieu, mais il est sûr qu'il nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Sachant qu'il ajoute « C'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé ». Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. On peut compter sur lui pour guérir. Jésus a dit, avant de quitter la terre, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Croyez-vous que Dieu guérit encore les gens de nos jours? Dans ce cas, faites ce que vous disent ces versets. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Voici votre parole du jour. Ne laissez pas tomber. Croyez que Dieu peut guérir, peut vous guérir. Merci Jésus pour toutes les guérisons que tu vas encore accomplir. Amen.
Merci. Merci. Merci beaucoup. Hein. Oui. Ah, Alfred, oui. Mm-hmm.
Voilà, alors, pour le président, il y a des moments qui sont particulièrement agréables. C'est que j'ai été chargé par vous, par l'Assemblée, à dire à notre cher couple pastoral également notre reconnaissance. C'est un grand sujet de reconnaissance. Alors, reconnaissance parce que déjà nous avons un pasteur. Il y avait une époque où on n'en avait pas. Donc on est déjà très bon. Deuxième sujet de reconnaissance, c'est que ce couple pastoral, ce soit vous. Ça, c'est bien. C'est super bien. Et le troisième sujet de reconnaissance, c'est pour tout ce que vous faites pour nous. Notamment, entre autres, les sermons qui ne nous sermonnent pas, mais qui nous donnent envie de continuer notre marche à la suite du Christ. Et pas seulement pour ça, mais aussi justement pour votre sens de l'humour. Alors, comme le président n'est pas forcément très représentatif en tant que vieux schnock de l'Assemblée, donc j'ai demandé à Émilie de le faire pour vous, de remettre cette enveloppe au couple. Non. Ben, comme on a qu'une seule enveloppe. Voilà.
Jérémy, continuons notre reconnaissance. Témoignage.
Bonjour à tous, donc voilà, un sujet de reconnaissance. On a accueilli une petite Valentine mardi. Et deux et trois enfants. Voilà, donc tout le monde va bien. La maman et l'enfant vont bien. Elles sont rentrées hier de la maternité. Donc, elles ne sont pas là ce matin, mais elles vous saluent. Merci en tout cas à chacun pour votre suivi pendant la grossesse, pour vos pensées, pour vos prières, pour vos encouragements. Et ça nous a bien porté et le Seigneur a répondu à nos prières puisqu'on a un bébé en pleine santé. Voilà. Donc, voilà. Merci. Merci.